Vivante Église, Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Vivante Église. S'épanouir malgré les blessures, c'est le cœur de cette émission. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un instant. S'épanouir malgré les blessures, hein, c'est le sujet de ce Vivante Église aujourd'hui. Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez maintenant sur les ondes de notre radio. Un sujet qui peut être sensible, un sujet qui peut être aussi douloureux, difficile, mais toujours porteur de vie et d'espérance. J'ai le plaisir, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios et puis de passage dans la cité mariale à Lourdes un évêque, Monseigneur Alain Rancé, évêque de Guyane, pour évoquer tout au long, et ces quelques minutes de cette émission, ces blessures. Bonjour Monseigneur Rancé.
Bonjour Nathalie, et bonjour à vos chers amis auditeurs de Radio
Alors,
Présence.
Vous avez écrit un ouvrage qui est paru il y a déjà quelques temps, mais qui peut être d'actualité pour aujourd'hui et pour demain, autour des blessures, donc les blessures de la vie, j'imagine les blessures aussi du cœur, psychique. Pourquoi l'écriture de cet ouvrage, Monseigneur ?
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que ce sont des personnes qui me l'ont demandé, en fait, les fidèles, qui m'ont dit « mais il faudrait que vous mettiez ça par écrit », parce que ça a commencé avec des conférences de carême, et puis par ailleurs, j'ai été enseignant, donc professeur au Grand Séminaire de Lyon, et dans le cadre de le cours de pastoral, j'avais aussi abordé ces questions, ces problématiques, puisque forcément, lorsqu'un prêtre reçoit des fidèles, eh bien, il entend des gens qui arrivent avec de grandes souffrances, avec de grandes blessures, qui parfois remontent des tout premières années, les premières, parfois même les premiers mois de leur gestation. Donc, il y a vraiment des souffrances qui s'enracinent dès le sein maternel. Et ça, ce sont des pédopsychiatres qui l'ont mis en évidence. Ce n'est pas moi. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à ce sujet. Et donc, il y a des gens qui charrient de profondes blessures qui vont impacter leurs relations, leurs relations sociales et, bien entendu, au premier chef, leurs relations familiales, leurs relations professionnelles. Et par conséquent, c'est intéressant pour les prêtres d'avoir quelques notions, avoir des idées un peu claires sur des questions qui sont d'ordre psychologique, mais plutôt psycho-affective, on va dire, et en lien avec la foi chrétienne. Vous voyez ? Et donc, en tant que membre jeune homme, j'ai côtoyé les mouvements charismatiques où ils mettaient déjà l'accent sur ce lien entre psychologie et foi, puisque aux États-Unis, on a des thérapeutes chrétiens qui, comme les pères jésuites Matthieu et Denis Lynn, aussi d'autres comme le couple Whitehead, qui ont également travaillé ces problématiques-là en lien avec la foi chrétienne. Ils sont reconnus comme des thérapeutes aux États-Unis, il n'y a pas trop de soucis. Ce sont des gens qui se sont appuyés, bien sûr, sur une ossature psychologique, notamment avec un auteur très connu, Erik Erikson, qui est aussi un peu comme, vous voyez, un fondateur, si vous voulez, d'une théorie, on va dire, psychologique, comme un peu comme a fait Freud, mais qui est plus en harmonie avec la foi chrétienne. Erikson est beaucoup plus en harmonie parce qu'il voit la personne comme une réalité psychosociale, n'est-ce pas, un être psychosocial, alors qu'Erikson, c'est plutôt un être psychosexuel. Vous voyez, tout est centré sur la sexualité, etc., la libido. Et ce n'est pas ça la réalité pour Erikson et pour nous chrétiens non plus. Pour nous, l'être humain, c'est d'abord quelqu'un qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Et quand il parle d'être psychosocial, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin, qui se nourrit des relations, et évidemment des relations affectives, des relations d'amour. Et on peut dire que l'être humain, dès les premiers moments de son existence, perçoit l'amour. Et on va dire, même les grands handicapés, n'est-ce pas, on le voit à l'Arche, quand on va visiter par exemple des personnes qui sont à l'Arche, ou dans notre environnement également, des personnes handicapées que nous côtoyons, eh bien on constate, même des grands handicaps mentaux, hein, que ces personnes perçoivent l'amour. Ils perçoivent, quand vous êtes sincère, ils perçoivent la sincérité de votre amour ou l'insincérité de votre amour. Ça, ce sont des experts en amour. Pourtant, intellectuellement parlant, ils sont, ils sont plus bas. Hein. Au niveau cognitif, au niveau réflexion intellectuelle, bon, il n'y a pas grand-chose, mais ce sont des experts en amour. On voit bien que l'être humain est vraiment fait pour ça. Et donc, Erikson a bien compris ça. Et il avait fait un travail où il avait séparé la vie humaine en... Il avait fait 8 étapes, de manière schématique. Évidemment, lui-même dit que ce n'est pas une... C'est pas la réalité absolue, mais c'est une schématisation qui donne à penser, qui permet de comprendre un peu certaines choses. Et pour ma part, j'avais ajouté, bien sûr, la période intra-utérine à cause des travaux récents, parce qu'à son époque, c'était pas encore bien... On n'avait pas bien compris tout ce qui se passait pendant cette période intra-utérine. Et puis, j'ai parlé, bien sûr, l'étape ultime, qui est celle après cette vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit le sous-titre de mon livre, c'est « La vie humaine en 10 étapes ». Et donc, c'est une schématisation, bien sûr. Et comme toute schématisation, on ne prétend pas enfermer le réel, bien entendu. Mais ça donne à penser, ça donne à réfléchir. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et donc, je l'ai fait donc dans le cadre du cours de pastoral. Il y a eu un très bon écho. Et finalement, quand je suis retourné dans une paroisse où j'ai repris un peu la thématique, vraiment, les gens ont beaucoup insisté pour que je mette par écrit. Donc, j'ai dit, bon, je vais mettre par écrit. Et c'est comme ça que mon livre est sorti en 2018.
Alors là, je pense aux auditeurs qui vous découvrent, Monseigneur Hansé, et qui vous écoutent. Bon, avec un peu d'humour, est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui un peu spécialiste, justement, de toutes ces blessures de la vie humaine qui peut commencer dès le sein maternel?
Je ne dirais pas ça de cette manière-là. Je pense que tout prêtre qui fait beaucoup d'écoute, parce que c'était mon cas, et je peux le dire que j'ai même commencé avant, puisque j'ai parlé des groupes de prière auxquels j'ai participé, où il y avait ce qu'on appelait les groupes de compassion, hein, c'était des binômes qui se mettaient ensemble pour recevoir, écouter les membres du groupe qui portaient des fardeaux et qui voudraient qu'on prie avec eux, sur ces fardeaux. Donc, je me suis initié un petit peu à l'écoute, dès mes plus jeunes années, moi je devais avoir 21 ans, voilà. Donc j'ai commencé comme cela. Et puis, devenu prêtre, évidemment, c'était. Alors j'ai aussi parlé, j'étais aussi responsable d'aumônerie quand j'étais séminariste et tout. Donc forcément, là encore, bon. Donc j'ai toujours été un peu en contact avec dans les groupes de prière, dans les groupes d'aumônerie, avec des gens qui voulaient me parler, voulaient me raconter leurs difficultés. Et comme prêtre, évidemment, j'avais des plages horaires qui explosaient souvent parce que les gens en ont vraiment besoin. Dès qu'on dit aux gens, écoutez, voilà, il y a une plage, vous pouvez venir, je suis à votre disposition pour vous écouter, pour prier avec vous sur vos difficultés, ben on est assailli. Donc j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes en écoute. Donc tout ça, avec mes lectures, avec cette expérience d'écoute, ça m'a permis de rédiger ce livre. Ça ne veut pas dire que je suis un grand spécialiste, ça ne veut pas dire que je suis un psy, mais c'est, on va dire, une synthèse qui n'est pas d'avant, qui bien sûr intègre la notion, les notions dont j'ai parlé, ericksoniennes notamment, mais qui est lue à la lumière de la foi, si vous voulez. Et tout ça est mis, si on met ces difficultés en lumière, c'est précisément pour les offrir au regard du Christ. Et vous voyez, c'est pour les mettre devant le Seigneur. Et j'ai envie de dire, parce que nous sommes à Lourdes, et également de les offrir, surtout pour ceux qui ont eu des difficultés dans leur enfance, et bien au regard maternel également de Marie. Donc en fait, il y a une dimension profondément spirituelle. Et l'infrastructure intellectuelle, enfin l'infrastructure scientifique qu'il y a derrière, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, bien sûr, parce que bon, ben, nous sommes des êtres rationnels et il est important de faire droit à cette dimension rationnelle. Et ça nous aide à comprendre, à mettre en lumière, mais c'est pour pouvoir les offrir, ces difficultés-là, ces blessures au Seigneur.
Et donc, puisque vous parlez des blessures, puisque vous évoquez aussi le Seigneur et de déposer ces blessures devant le Seigneur, mort et ressuscité, j'imagine que ceux qui vous découvrent là, maintenant, peut-être nos auditeurs, est-ce qu'on peut parler aussi, aujourd'hui, pour vous, dans votre appel, d'un ministère particulier auprès, peut-être, des personnes fragiles, les blessés de la vie, un ministère de consolation, un ministère, allez, je vais oser dire le mot, de guérison. Alors, est-ce que le Seigneur aujourd'hui, hein, comme il l'indique dans sa parole, et qu'il ordonne, guérissez les malades. Alors aujourd'hui, comment se situer quand on est un laïc, hein, voilà, quand on est évêque, quand on est pasteur, il y a des malades, il y a des blessés de la vie, faut-il exercer ce ministère de guérison?
Alors, pour répondre à votre question, alors, d'abord, bien préciser les choses, c'est qu'on ne prétend pas se substituer aux thérapeutes, thérapeute, psy, etc., psychiatre, bien entendu. Et d'ailleurs, lorsqu'on, dans l'entretien qu'on a avec les personnes, dans les entretiens, on voit qu'on a des grosses affaires sur le plan psychologique, on les adresse à un thérapeute, bien sûr, hein, on les adresse à un psychologue. Et d'ailleurs, souvent, quand on a un psychologue chrétien, souvent, il y a un retour, et c'est très intéressant de voir la complémentarité qui existe avec, entre le prêtre, qui écoute le fidèle, ou le groupe de, ou les écoutants qui ont été formés à cet effet, hein, qu'ils soient religieux ou laïcs, et éventuellement le psy. Donc il y a une interaction, parce qu'en définitive, le travail du psy, c'est de mettre en lumière les difficultés, de rechercher, mais une fois qu'on a mis en lumière les problèmes, ça ne veut pas dire qu'on les a résolus. Et en définitive, il y a des choses qui, de fait, le fait de prendre conscience d'un certain nombre de blocages, de difficultés, de prendre conscience de leur origine, c'est déjà une partie de la guérison, c'est vrai, et dans beaucoup de cas. Et parfois même, la personne est libérée de son problème, hein, quand elle a compris l'origine de son problème. Mais parfois, quand c'est très profond, quand ça atteint des zones extrêmement profondes, et là, non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on voit le problème, les psys mettent en évidence, mais la personne reste avec sa souffrance. Et il est important de mettre cette souffrance devant le Christ, parce que le Christ est vraiment le sauveur de tout l'homme. Ce n'est pas simplement le sauveur de l'âme après la mort. Il nous sauve aujourd'hui. Il est le Seigneur et le sauveur pour aujourd'hui. Ça veut dire que se plonger, et ça je crois que c'est une chose absolument fondamentale, c'est l'amour qui guérit en définitive. Parce qu'on l'a dit au départ, nous sommes faits pour l'amour, pour être aimés. Et nos blessures, elles sont quoi? L'origine, c'est quoi? Manque d'amour, absence, ou insuffisance d'amour. Quand on parle d'injustice, c'est aussi en lien avec l'amour. On ne se sent pas aimé quand il y a des injustices. Et puis, perversion de l'amour. Vous voyez, tout tourne autour de l'amour en définitive. Et donc, c'est un amour plus grand qui guérit nos blessures d'amour, fondamentalement. C'est vrai que des enfants qui ont vécu, par exemple, une enfance très difficile avec beaucoup de carences affectives, qui font un mariage heureux avec un conjoint vraiment aimant, équilibré, ça permet de guérir en grande partie, parfois totalement, parfois en partie, la personne qui a vécu ces difficultés. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont tellement profondes que le conjoint, il a, avec toute la meilleure bonne volonté du monde, avec tout l'amour qu'il peut donner, ça reste insuffisant. Il faut un amour plus grand. Il faut l'amour infini de Dieu, en définitive. Et quand les gens sont plongés dans cet amour, il se passe des choses. Et c'est ça aussi, c'est aussi ça notre foi chrétienne.
Vous avez été témoin, j'imagine.
Très nombreuses reprises, sinon j'aurais pas...
Donc c'est plein d'espérance, là, pour ceux qui vous écoutent, hein, ceux qui sont peut-être encore dans des blessures vraiment profondes, Monseigneur, avec des cicatrices et des douleurs que l'on ne peut nommer, peut-être. Peut-être une parole, là,
oui,
maintenant,
moi, je peux dire, consolation,
ou de fortification.
Moi, je peux dire une parole, hein, et qui, à la suite de saint Augustin, et je l'ai dit dans mon livre, saint Augustin nous dit... Dieu donne ce qu'il ordonne. Et à partir de là, je peux dire aux fidèles qui m'écoutent, aux personnes qui souffrent, Dieu peut nous laisser avec une maladie physique toute notre vie parce que ça ne nous empêche pas forcément d'aimer. Mais une maladie psycho-affective, ça veut dire une souffrance, une blessure psycho-affective qui freine l'amour en nous, qui nous empêche parfois d'aimer, qui fait qu'on se recroqueville, qu'on met sa carapace parce qu'on a tellement souffert qu'on a peur de se risquer à ouvrir notre cœur à d'autres, hein, parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été humilié, parce qu'on a été confronté à de la perversion. Ça, Dieu ne peut pas nous laisser avec ça. Parce qu'il ne peut pas nous demander « aimez-vous comme je vous ai aimé » et nous laisser avec des blessures qui nous empêchent d'aimer. Il y aurait une contradiction, il y aurait une incohérence. C'est pour ça que je suis absolument convaincu qu'en faisant un chemin spirituel, un cheminement spirituel, en allant au Christ avec nos blessures, en lui offrant nos blessures, il va répandre le baume de son Saint-Esprit sur nos plaies. Il va nous mettre dans les bras de sa maman, il va nous prendre sur son cœur, nous serrer contre son cœur, il va nous faire ressentir son amour divin, et cet amour divin va guérir nos blessures. Il va nous permettre, voilà, nos blessures psycho-affectives, va nous permettre de nouveau d'être capable d'aimer, de nouveau d'être capable de pardonner et d'entrer vraiment dans la dynamique de l'amour. Et c'est cette dynamique de l'amour qui guérit en définitive.
Donc il y a quelque peu une rééducation qui s'opère, hein, Monseigneur. On rééduque un peu tout ça.
Oui, tout à fait. Vous savez, les réalités spirituelles sont liées aux réalités psychologiques et aux réalités physiques. On parle de maladies psychosomatiques, mais on pourrait parler aussi de maladies spirituelles ou psychiques ou spirituelles ou somatiques. Il n'y a pas de raison. Les trois dimensions de la personne humaine sont liées, sont indissociables. C'est un tout. Et c'est pour cela qu'il y a des psychiatres qui sont très malins et très intelligents. Il y en avait un qui était du côté de Paris, enfin à Paris, et il gardait soignait des malades, des patients. Et quand il repérait que la cause était spirituelle, par exemple un refus de pardon, un besoin d'être pardonné de la personne, bon, il ramassait un petit peu d'oseille quand même. Et puis après, une fois, il envoyait la personne. Il dit, écoutez, allez à la rue du Bac, il y a toujours des prêtres qui confessent. Il ne voyait plus la personne après. Hein. Parce qu'il avait repéré que la personne avait besoin de recevoir un pardon dans la confession, ou bien d'être aidé à donner ce pardon. Donc c'était lié parfois au pardon. Et donc il avait repéré le truc, et effectivement, il avait raison, parce qu'une fois que la personne avait reçu l'absolution, avait confessé son péché, ben, les difficultés psychologiques qui étaient liées disparaissaient, comme par enchantement.
Alors permettez-moi, je rebondis tout de suite. Donc l'un des remèdes est au fond outil pour la guérison, là où il y a eu blessure. Vous nommez la confession, ce sacrement que l'Église catholique donne, donc ce sacrement de la confession, si on entend bien, Monseigneur Rancé, est un sacrement qui vient profondément libérer et puis guérir. Est-ce qu'on
Absolument.
Peut être libéré et guéri après être passé par l'expérience du sacrement de confession?
Absolument. Vous savez que d'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a trois sacrements de guérison. Bien sûr, l'Eucharistie, hein, qui est un sacrement, on va dire, charnière. Hein. D'ailleurs, je crois que les éditeurs, ah oui, c'est pas sur votre antenne, j'ai fait une série d'émissions sur les sacrements. Donc, de fait... Les sacrements, on a un axe central qui est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est à la fois un sacrement d'initiation, un des sacrements d'initiation chrétienne, c'est un sacrement également, on va dire, de guérison. Et il est vraiment à toutes les sauces, ce sacrement-là. Et aussi, on voit bien qu'il est aussi lié à l'ordre, au sacrement de l'ordre, puisque quand on est ordonné prêtre, ben, c'est notamment pour l'Eucharistie, n'est-ce pas? Et je dirais aussi aux époux, c'est aussi lié au sacrement de mariage, hein, parce que c'est la manne dont on a besoin, qui nourrit l'amour dans le cœur des époux et dans le cœur de toute la famille. Donc revenons au sacrement de réconciliation, il fait partie des sacrements de guérison. Effectivement, c'est un lieu de guérison. Il est incontestable que notre culpabilité par rapport à notre péché, parce qu'une fois qu'on a commis un péché, surtout grave, eh bien notre conscience nous travaille et ça agit dans tout notre être. Ça agit, ça impacte notre psychisme, ça impacte notre corps. Tout est lié. Hein, on ne vit pas dans des compartiments séparés, d'un côté le psychisme, d'un côté le spirituel, d'un côté le corps. Il faut sortir de cette vision, on va dire, schizophrénique. L'être humain est un tout. Et donc, par conséquent, le sacrement de réconciliation a sa place dans la guérison, dans le mystère de guérison, dans les atouts, les remèdes qui nous sont donnés par le Seigneur pour guérir de ces différentes blessures. Il y a le sacrement de réconciliation, il y a le sacrement de l'Eucharistie, je l'ai dit, mais puis au sacrement des malades aussi. Quand le psychisme est très atteint, eh bien, on peut aussi avoir recours au sacrement des malades. Et je dirais même aussi, le sacrement de l'Eucharistie, ici à l'Aude, la plupart des miracles de l'Aude sont des miracles eucharistiques. Il y a des miracles après avoir été plongé dans la piscine, mais beaucoup, la plupart, ont eu lieu, notamment lors de l'exposition du Saint-Sacrement, lors de procession du Saint-Sacrement, où il y a eu des miracles extraordinaires. Donc c'est vraiment aussi un sacrement de guérison, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Merci infiniment pour cette première partie, ces quelques minutes, Monseigneur Rancé. Je vous propose de vous retrouver dans un instant après une plage musicale. Cette deuxième partie sera consacrée de la blessure à la reconstruction. Eh bien oui, après des blessures parfois profondes, il est toujours possible de reprendre un chemin de vie et d'être relevé par le Christ. À tout à l'heure. Merci. Suite de cette seconde partie au micro, je reçois Monseigneur Alain Rancé, évêque de Guyane. Vous êtes auteur d'un livre, S'épanouir malgré les blessures, avec un sous-titre que je n'avais pas donné tout au début de la première partie de l'émission, en 10 étapes. Donc il faut du temps.
La vie humaine en 10 étapes.
Oui. Donc ça, c'est étape par étape. C'est un peu aussi le Seigneur lui-même qui, avec chacun, fait étape par étape, progressivement. Il est doux. Parfois.
Oui, alors, quand je parle des étapes de la vie dans mon livre, évidemment, c'est des périodes de la vie. Donc, période intra-utérine, le nourrisson, la toute petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc. Le jeune adulte, etc.
Alors, comment passer de la blessure et des blessures parfois profondes à la guérison et à la guérison totale, Monseigneur ?
Donc, on a déjà un peu abordé la question tout à l'heure en disant que, en définitive, tout conduit. En fait, c'est l'amour qui est la clé, en fait. Et l'amour de Dieu, c'est ce qu'il faut aux êtres humains. Et cette expérience d'être aimé par Dieu est la source de toute guérison. On a vraiment besoin de ce... Surtout quand on a été blessé dans son enfance, des difficultés par rapport à la paternité, à la maternité. Eh bien, se retrouver face à ce Dieu Père, à cet amour miséricordieux du Père, et bien sûr, faire l'expérience aussi de l'amour maternel de la Vierge Marie, sont vraiment en soi une expérience de guérison. Et donc, je crois que le cheminement chrétien, le fait de cheminer dans la foi, est un cheminement de guérison pour toute personne, et spécialement les personnes blessées.
Alors, quand les blessures ne s'arrêtent jamais, qu'il y a toujours presque comme un mécanisme où, permettez-moi, il peut arriver aussi que la personne, les personnes, restent un peu dans ce cercle infernal de la blessure et devenir quelque peu prisonnière de là ou des blessures, et sans s'en rendre compte, se complaire ou rentrer presque... pas en amitié avec ses propres blessures, mais vivre et avoir besoin d'y rester.
Oui, parce que ça c'est un mauvais équilibre, mais c'est une forme d'équilibre, quelque part, c'est leur mode de vie. Hein, c'est devenu un mode de vie, une manière de vivre.
Une protection.
Je ne sais pas si on peut l'appeler protection, mais disons que, par exemple, vous avez subi une blessure extrêmement grave dans votre enfance par votre père, votre mère, ou une personne proche de la famille, ou je sais pas, ou une personne quelconque qui vous a profondément blessé, je pense, cas d'abus, une chose comme celle-là. Et donc, si vous gardez, c'est-à-dire notamment la rancœur, l'amertume, la haine envers la personne qui a abusé de vous, qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal, bien, c'est comme si en gardant cette haine, c'est comme si vous gardiez quelque part cette personne dans une prison invisible. Vous ne le pardonnez pas, vous l'enfermez dans son péché, dans le mal qu'elle vous a fait. Et si si jamais cette personne vous rencontre, vous croise dans la rue ou bien dans une même pièce, arrive, ben, sur votre visage, elle va bien voir qu'elle n'est pas pardonnée. Hein, et elle sera vraiment... Elle est dans sa prison invisible. Quand elle vous voit, ben, c'est clair qu'elle sait qu'elle est enfermée dans son péché. Et c'est vous qui avez les clés. Mais vous êtes aussi dans la prison. Et donc, vous n'arrivez pas à clore ce chapitre de votre vie. Vous êtes enfermé dans ce chapitre, là, à l'époque où vous avez été blessé, avec votre agresseur, avec les clés de la cellule où il est, et vous êtes gardienne de prison. Et donc, vous êtes aussi dans la prison. Le jour où vous ouvrez la cellule, vous dites, allez, dégage, sors, vous pouvez aussi sortir de cette prison et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc, on a abordé la question d'être pardonné tout à l'heure avec le sacrement de réconciliation, mais là nous touchons à la question du pardon que nous devons donner. Et ce n'est pas évident, mais là encore on n'est pas seul. On n'est pas obligé de traverser nos épreuves, nos souffrances, nos difficultés à pardonner tout seul. Et c'est ça aussi le fait d'être en église, d'être, même si, comme vous avez dit, il y a eu des accidents, mais c'est parce qu'il y a des accidents qu'on ne prend pas notre voiture. L'église sait ce que le Christ nous a laissé. N'est-ce pas? Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon église. Il a envoyé ses apôtres en mission en leur disant, qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette. Donc, l'église continue le ministère de Jésus, le ministère de guérison, d'annonce de la bonne nouvelle et de guérison. Le ministère de Jésus, c'est quoi? Qu'il a transmis, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je n'y avais pas encore répondu, mais quand il envoie ses apôtres en mission, il ne leur dit pas, écoutez, allez annoncer simplement la bonne nouvelle, faites de l'administratif, faites des célébrations, prêchez, bravo, parfait, et puis circulez, il n'y a plus rien à voir. Non, il dit, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades. L'évangile, c'est une puissance de vie, ce n'est pas simplement des discours, et ça fait la différence avec beaucoup de religions. Parce qu'il y a plein de religions, c'est que du blablabla, vous voyez ? Nous, dans l'Église catholique, dans le christianisme, c'est pas que du blablabla. Et si vous lisez, par exemple, Dei Verbum, hein, donc numéro 2, chapitre 2e paragraphe, vous verrez que la problématique, la pédagogie divine, c'est toujours parole et signe. Les uns se répondant, hein, s'explicitant, se répondant. Parole et signe. Dès l'Ancien Testament, hein, il y a Moïse qui parle... Mais il y a les signes qui accompagnent le ministère de Moïse, hein, pour sortir d'Égypte déjà, et puis ensuite pour traverser le désert. Dans le ministère des prophètes également. Dans le ministère de Christ, n'en parlons pas. Dans le ministère des apôtres, n'en parlons pas. Dans le ministère de l'Église, tout au long des siècles, on a parole et signes. Et donc, ça a toujours été la pédagogie divine qui a été redite par le Concile Vatican II. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, l'Église, c'est une oasis de vie. Et donc, normalement, les personnes en souffrance doivent bénéficier de cette oasis, doivent pouvoir entrer dans cette oasis pour boire un peu d'eau, se restaurer, etc. Donc, en étant accueillis par les d'autres frères qui sont dans cette oasis, les frères chrétiens, et qui sont là pour écouter la souffrance, pour la porter avec ces personnes devant le Seigneur, pour les accompagner dans ce processus de pardon, qui, tout à l'heure vous parliez d'étapes, mais dans ce sens-là, parfois il y a des étapes d'alors déjà effectivement reconnaître avec l'autre qu'elle est victime, qu'elle a souffert, et qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On n'arrive pas tout de suite à « il faut que tu pardonnes », mais ensuite on l'accompagne, dire « écoute, il faut que tu sortes de cette prison, il faut que tu fermes ce chapitre et que tu puisses en ouvrir un nouveau. Tu ne vas pas passer toute ta vie dans ce chapitre sombre de ta vie, de ton existence. Ça va pas être que tout le livre ne va pas être que ce chapitre quand même. Et le livre, il peut y avoir un chapitre sombre et puis on passe à la lumière, on passe à des chapitres lumineux. Donc il faut aussi qu'on ait des chapitres lumineux. On va pas, voilà. Et donc il est important que tu entres dans ce processus de pardon. Donc on va l'accompagner, elle va se confesser de ne pas pouvoir pardonner, elle va cheminer et on va l'aider dans la prière. Et puis, ça va se faire.
Donc, d'où l'importance quand même d'être réunis en fraternité, hein. D'où l'importance aussi de l'accueil, hein. L'importance aussi, on peut le souligner, de l'écoute.
Hein, voilà. Absolument.
Une écoute active. L'écoute peut être aussi un lieu de libération et de guérison.
Absolument. Hein, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de ce pôle à Lourdes d'écoute, de confession, qui est aussi un pôle d'écoute, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est important que dans les paroisses, le curé ne peut pas toujours, parce qu'il a parfois 36 paroisses, il ne peut pas toujours être là à écouter, mais qu'il y ait une équipe formée qui puisse, avec toute la... formée notamment à la discrétion, parce que... à l'écoute et à la discrétion, parce qu'il est clair qu'on ne doit pas répéter ce qu'on entend. Le prêtre est tenu au secret, mais aussi il faut que tous les écoutants soient tenus au secret.
Les écoutants qui sont aussi validés dans leur mission.
Validés dans leur mission, qui ont une mission.
Une
lettre de mission de leur curé ou de leur évêque, si c'est au niveau diocésain qu'on a monté cette cellule d'écoute. Parce que, voilà, c'est bien d'avoir des cellules d'écoute pour les cas d'abus, mais il faut aussi quand on a souffert dans sa famille, on a souffert, on est blessé, qu'on puisse avoir un lieu, on puisse non seulement. Être écouté, mais aussi recevoir la prière des frères. Et lorsque deux ou trois demandent quelque chose à mon Père, et bien cela vous sera accordé, dit Jésus. Jésus ne nous invite pas à vivre notre foi de façon individualiste. L'individualisme n'est pas une création du catholicisme. Le catholicisme n'est pas compatible avec l'individualisme. Sinon on pourrait rester chez soi et puis il y a un prêtre qui fait en zoom, qui fait la messe. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peuple. C'est un corps. Et un corps, les organes, ils se touchent, les organes, ils sont connectés. Ils ne sont pas chacun dans leur... des monades qui éventuellement sont rejoints de façon numérique, de façon virtuelle. Non, mais c'est quelque chose de concret, un corps. Et donc, par conséquent, encore une fois, si on fait partie d'un corps qui est l'Église, on ne devrait pas avoir à traverser seul son épreuve. Ça sert à quoi, sinon, d'être membre d'une communauté chrétienne? Ça sert à quoi? On va au cinoche, on va à la messe comme on va au cinéma, on entend une prestation, on prend quelque chose et puis on rentre chez soi. C'est ça la vie chrétienne? C'est ça la vie communautaire? Si on continue comme ça, on va perdre tous nos fidèles. Ils iront ailleurs. On a besoin de ces dimensions communautaires. On a besoin au moins de petits groupes, de petits noyaux paroissiaux, noyaux d'écoutants, noyaux de... qui est sous l'autorité du prêtre, puisse assurer cette écoute, cet accompagnement, ce suivi fraternel. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer des professionnels. Parfois, on va renvoyer quand c'est
Quand il faut renvoyer, on renvoie.
Mais bon, tout le monde n'a pas forcément besoin de d'une psychothérapie absolument.
Parfois, juste un accueil avec une véritable écoute et des écoutes informées peut suffire aussi pour faire le passage et la traversée difficile.
Très souvent, avec l'écoute, on a compris le problème, on a mis en lumière le problème, on a prié dessus. La personne a fait sa démarche de conversion parfois, en allant se confesser ou bien en arrivant à donner le pardon, et les choses sont résolues. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du psychiatre, il avait bien compris le truc, donc c'est passé.
Il avait compris que ça ne dépendait pas de lui, que c'était pas toutes
les techniques qu'il allait pouvoir employer qui allait aider le malade. Il avait compris que si la personne avait besoin d'une confession, effectivement, il avait raison, puisque les personnes ne revenaient plus. Après, elles étaient libérées de leurs problèmes.
Vous avez participé, et c'est ainsi que nous allons un peu achever et conclure ce Vivante Église. Vous avez participé ici même, dans ce sanctuaire, Monseigneur Rancé, au festival Christ Consolateur. Donc vous étiez le référent, puisqu'on parlait de l'Église dans sa diversité et de tous ses membres. Et vous étiez le référent évêque qui avait participé du début à la fin à ce festival Christ Consolateur. Premier festival ici à Lourdes, dans cette cité mariale. C'était audacieux, festival d'unité pour les chrétiens. Alors, vous pouvez en dire deux mots sur ce festival. J'ai suivi ce festival, il se passe de belles choses, on célèbre le Seigneur, on loue, on chante, on prie, on célèbre les sacrements aussi. Et puis, on a des hommes et des femmes qui arrivent, avec des cœurs ouverts ou fermés, qui ont besoin peut-être d'être pansés dans leurs blessures, restaurés. Et vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, Jésus, dans sa parole, invite aussi, à guérir les malades. Donc, deux mots sur ce festival, Christ Consolateur.
Oui,
pourquoi avoir participé et vous avez accepté de participer au festival?
Oui, alors en fait, au départ, je pense que c'est Mgr Macaire qui était souhaité pour présider
cette... Et vous le connaissez bien, Mgr Macaire.
C'est mon petit frère. Je le connais depuis qu'il a 19 ans et nous sommes amis depuis cette époque. Il en a 56 aujourd'hui, donc ça dit que ça fait déjà un moment. Et donc il a été pressenti pour présider, parce que les organisateurs souhaitaient qu'il y ait un évêque qui soit vraiment signe de l'Église et qui préside cette manifestation de 4 jours. Et comme il ne pouvait pas, donc il leur a dit, vous voyez avec Monseigneur Rancé. Et donc ils m'ont appelé, donc comme je n'avais rien prévu à cette période, donc j'ai accepté volontiers de venir, parce que cette problématique évidemment de la consolation des gens en souffrance, c'est quelque chose qui m'émeut, vous voyez la souffrance des gens, et je n'avais pas de raison de dire non, et donc c'est pour ça que je suis venu. Alors il y avait effectivement, vous avez dit, il y a une certaine œcuménicité, mais en fait il y avait deux intervenants protestants, mais catho compatibles. Il y en a un qui nous a fait une grosse déclaration d'amour en disant « J'aime l'Église catholique voilà. ». Donc c'était vraiment très, très...
Et j'aime les saints aussi de l'Église catholique.
Oui, il aime...
Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux.
Voilà, il aime les saints et tout. Donc voilà, donc c'était des catho compatibles. C'était encore une fois des protestants catho compatibles. Donc ça fonctionne très bien avec eux. Et donc c'était vraiment un temps très beau, avec de nombreux intervenants, religieuses, prêtres, laïcs, et puis moi-même comme évêque, et avec beaucoup de temps, à la fois de prière, de temps de prière pour les personnes en souffrance, et qu'on a décliné, j'ai fait mes conférences un petit peu en lien avec ce que j'ai écrit dans mon livre, et puis d'autres ont fait aussi en lien avec leur propres livres ou leurs propres travaux, leurs propres réflexions. Et puis, donc, il y avait ces temps de prière et les temps d'écoute. Beaucoup, beaucoup de temps d'écoute. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures à écouter individuellement les personnes. Et donc, et puis de prière avec eux. On porte, on écoute, et puis ensuite, on présente au Seigneur la difficulté que la personne a et à la Vierge Marie, parce que vraiment, j'ai voulu, pour ma part, vraiment mettre la Vierge Marie. Je dis, allez, tu prends les choses en main, vraiment. J'ai fonctionné vraiment, si je peux parler ainsi, avec elle. Et je crois qu'elle est la Vierge Marie a cette dimension maternelle, cette douceur maternelle, cette bonté maternelle. Et bien, quelque part, on est à Lourdes, mais pas seulement à Lourdes, partout on a tous besoin un peu de cette tendresse maternelle, de ce regard maternel. Même si on a 90 ans, ce regard maternel nous fait toujours du bien, n'est-ce pas ? Nous apaise et nous aide à franchir des caps. Et donc, par conséquent, donc voilà, moi j'ai vu vraiment des transformations, hein, des gens qui ont été vraiment transformés, qui en ont témoigné. Et soit sur le plan intérieur, soit même physiquement, hein, il y a eu des grâces, les personnes ont témoigné de grâces qu'elles ont reçues dans cet environnement. On n'est pas surpris, on est à Lourdes, hein, et les grâces sont... Bon, moi, je les vois aussi ailleurs, hein, mais évidemment, à Lourdes, bah, on s'y attend plus particulièrement qu'ailleurs. Et voilà, donc on n'a pas été déçus. Vraiment, on a eu de très, très nombreux témoignages. Et vraiment, c'est un moment de joie. Voilà, je crois qu'on peut dire que dimanche, quand les gens sont partis, bah, ils sont partis dans la joie. Et c'est l'impression que nous avons tous suivi, hein, cette joie. Et on a été heureux de voir des personnes qui témoignaient, qui allaient mieux, qui... C'était très beau, vraiment très beau.
Qu'il est bon de vivre ensemble en frère, et vous avez vécu, voilà, avec parfois des différences, cette fraternité dans la louange, dans Absolument. La prière, et puis dans ces lieux aussi, et ces moments où Jésus lui-même passe, voilà, oui. Et Jésus lui-même guérit, hein, les cœurs blessés, meurtris.
Des corps aussi, oui, ouais. Tout à fait.
Alors, puisqu'on parle de ces blessures, hein, blessures de la vie, ou des corps aussi souffrants, c'est ainsi que je vous propose de terminer très vite, hein, en une minute, Monseigneur, je vous demande beaucoup peut-être. Je vais vous demander à la fin de l'émission de bénir tous les auditeurs de notre antenne de Radio Présence, et puis peut-être dans votre ministère aussi de prier et de bénir particulièrement ceux qui sont éprouvés par des blessures et des maladies physiques, hein, puisque Jésus lui-même ordonne de guérir les malades, que vous êtes vous-même ordonné dans votre ministère et en mission. Voilà, c'est ainsi que je vous propose, hein, de terminer ce Vivante Église. Et merci d'avoir fait ce passage ici dans cette émission, et puis ici à Lourdes. Merci. On vous écoute dans la prière et ensuite la bénédiction.
Seigneur Jésus, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, notre Sainte Mère, la Sainte Vierge Marie, nous voulons te confier toutes les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, viens les rejoindre et tendre ta main sur elles et leur accorder la grâce de ta bénédiction. Nous te prions de rejoindre en particulier les personnes qui vivent des conflits intérieurs, des souffrances internes, des personnes qui ont perdu le sommeil, qui vivent des insomnies à répétition, qui sont épuisées, des personnes qui sont dans la dépression, dans l'anxiété chronique, des personnes qui vivent des grandes difficultés dans le sein de la famille en ce moment, des personnes dont les couples battent de l'aile, sont en voie d'être de rupture. Nous te confions les personnes qui ont vécu des enfances épouvantables, qui ont connu les abus, les agressions, des personnes qui ont vécu des humiliations, qui ont perdu confiance en elles-mêmes, qui ont une difficulté vis-à-vis de vraiment l'estime d'elles-mêmes, qui ne s'estiment pas, qui ont développé des complexes d'infériorité, des personnes aussi à qui on a fait comprendre qu'elles étaient tellement mauvaises qu'elles entretiennent constamment, là encore, une culpabilité, une forme de culpabilité morbide, qui doutent d'elles-mêmes, qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, qui ne croient pas en leur valeur, en la bonté de leur être. Alors, je te confie, Seigneur, toutes ces personnes qui nous sont à l'écoute, toutes ces personnes qui souffrent dans leur âme, dans leur cœur, et aussi nos malades, tous les malades qui sont à l'écoute, les grands malades, ceux qui sont perclus de douleur, ceux qui ont du mal à manger, voilà, les personnes qui connaissent des problèmes d'anorexie ou aussi des difficultés de déglutition, enfin des problèmes de liés au point de vue biologique, qui ont du mal, tous ceux qui ont du mal à se nourrir, à se sustenter, les personnes qui souffrent de migraines, les personnes qui souffrent de douleurs articulaires, de douleurs dans la colonne vertébrale, nous te les confions toutes. Toutes les personnes atteintes de graves maladies, comme les maladies auto-immunes, comme le cancer, vraiment, nous te les remettons. Amen. Toutes celles qui sont aux prises avec ces souffrances, et puis aussi les peurs qui accompagnent cela, cette épée, parce qu'elles ressentent cela comme une épée de Damoclès sur leur tête. Alors, envoie ton esprit de paix, Amen. Ton esprit d'amour, chasse la crainte, chasse l'angoisse, donne-leur la grâce de pouvoir s'en remettre à toi, de se confier à toi. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Amen. Tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel. Amen. Et jamais cet amour ne passera. Et jamais nous ne serons abandonnés à notre sort. Tu seras toujours là pour nous. Alors merci Seigneur de les rejoindre en cet instant, de leur donner ta paix, le réconfort et de guérir nos malades. et mes frères et sœurs qui m'écoutaient, au nom du Seigneur, je vous bénis, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Amen. Merci, Monseigneur Alain Rancé. Et bonne mission à vous.
Merci.